Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Vous êtes bien sur Point d'Orgue. J'ai souvent constaté ceci quand j'allais à la messe, quand j'écoutais même de très grandes solennités dans des endroits réputés extraordinaires pour leur musique. La religion chrétienne, et en particulier le catholicisme, ne laisse pas de place durant la messe à la méditation. Ça m'a beaucoup frappé, notamment lorsqu'un jour j'ai lu un livre sur la spiritualité japonaise, où dedans il était évoqué qu'il y avait peut-être ce manque en Occident de tout ce qui tournait autour de la méditation. Or, quand on prie, on se met dans un espèce d'état un petit peu second, puisque normalement nous nous mettons en disponibilité, on a le cœur disponible. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons peut-être un petit peu perdu, et que la musique peut nous aider à retrouver. Je vous explique pourquoi. La musique enfin, oblige d'une certaine mesure à être exigeant, à être complètement disponible, à être dans un esprit, dans un état de liberté. Et il me semble que c'est cet état dans lequel on doit être quand on prie. Si par exemple vous écoutez de la musique grégorienne, ce que je vous souhaite, vous avez un lien assez évident entre le souffle, l'anima, la pneuma, et la musicalité. Ce qui fait que, en chantant, vous avez quelque chose de l'ordre du naturel, qui fait que l'esprit se met naturellement en disposition pour recevoir le chant. Alors j'évoque le grégorien parce que c'est évidemment le plus frappant, mais le grégorien, c'est nos racines. S'il y a eu Mozart, c'est parce qu'il y a eu du grégorien. Je pense que de toute cette histoire musicale, nous devons en retirer quelque chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à la messe, je vous dis un petit peu comme je le pense. Aujourd'hui, c'est peut-être on va pas dire un coup de gueule, mais en tout cas, c'est quelque chose que je constate, et qu'en tant que musicien liturgique, cela m'attriste un petit peu. Mais il est vrai que la musique est souvent cantonnée à un rôle presque de bouche-trou, ou alors, dans un autre sens, que la musique est surutilisée, mais parfois à mauvais escient. Je vous explique ces deux problèmes. La musique à mauvais escient, c'est celle où on chante trop, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette question de la disponibilité. Quand vous chantez, je trouve que c'est infiniment agréable. Quand toute une assemblée reprend à plein poumon une hymne, ou je sais pas, un Sanctus, quelque chose comme ça, il faut avouer que c'est quelque chose d'extrêmement poignant, d'extrêmement fort. Mais quand on chante à peu près 15 fois en une heure, on peut peut-être passer à côté de quelque chose dans l'ordre de la disponibilité. Et pour moi, c'est dans l'écoute. Je vous dis ça parce que pour moi, mais là c'est de l'ordre totalement de l'intime, hein, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir la même vision des choses, mais c'est l'intimité qui va rapprocher l'auditeur d'un état de méditation prompt à la prière. Et j'ai en tête ce petit passage de l'Évangile où après que on n'ait pu croire que Dieu se manifeste dans la foudre, les tremblements de terre, les colonnes de feu. En fait, il est simplement dans une petite brise légère de vent. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on soit tout à fait, je pense, disponible. Ça, la musique le permet. Il y a beaucoup de choses qui permettent de se mettre dans cet état quasi méditatif de disponibilité pour la prière. Et alors ça, on l'a soit par l'instrumentation, soit par l'orgue, qui est quand même un instrument qui, grâce à ses infinies possibilités, peut faire naître parfois des choses totalement tonitruantes, symphoniques, etc. Et parfois des choses ô combien méditatives qui nous permettent de rentrer dans la prière. Et bien entendu, après, vous avez le chant. Alors le chant 1, parce que il y a des paroles, donc qui peuvent dire quelque chose qui touche immédiatement. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, le chant a été enfin la plus sublime des catéchèses. C'est-à-dire que les hymnes que l'on chantait, enfin prenez par exemple Laudation, enfin les grands textes comme ça qui ont été écrits parfois par les plus grands penseurs servent de catéchèse pour que les gens qui les écoutent en soient pénétrés et puissent témoigner de quelque chose. Donc vous avez donc cette première dimension qui est le texte dans ce qui est chanté, et bien entendu vous avez un peu l'ineffable, c'est-à-dire la musique elle-même qui se cache derrière elle-même, c'est-à-dire que les harmonies vont porter quelque chose. C'est de l'ordre de l'ineffable, comme je vous disais, de l'indicible, et cela combiné à des paroles, bien sûr, cela peut donner quelques merveilles. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'imaginer cet esprit de méditation, c'est de se mettre dans cet esprit de méditation avec l'orgue, avec un moment tout à fait particulier qui est la communion. La communion, vous avez différentes choses, vous pouvez l'envisager de deux manières. Soit, effectivement, on assume de chanter pendant la communion, parce que c'est un chant de procession, ce qui se fait assez traditionnellement dans la plupart des paroisses. Donc on chante pour recevoir le corps du Christ, et puis après on peut méditer. Soit il y a une vision inverse, qui est, à titre personnel, celle que je défends, qui est de rentrer dans un état de prière totale au moment de recevoir le corps du Christ, justement pour se mettre en disponibilité. Et à ce titre-là, certains compositeurs ont mis en avant des moments totalement méditatifs pour recevoir le corps du Christ. Alors, le premier dont je veux vous parler, je vous en ai déjà parlé à de multiples reprises, c'est un compositeur que j'aime infiniment, il s'agit de Tournemire. Tournemire, donc je vous le rappelle, il a écrit l'Orgue mystique, un recueil où il écrit les 51 messes de l'année, sauf du temps de l'Avent et du Carême. À l'exception du Gaudete et du Laetare, et dans ces pièces, donc qui sont divisées la plupart du temps, sauf exception en 5, il y a la communion. Je vais donc vous proposer d'écouter la communion de la Pentecôte, qui à elle seule témoigne de quelque chose de totalement fluide, de totalement serein, et de profondément léger afin de recevoir le corps du Christ. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette communion de Tournemire. Je voulais partager avec vous cette citation du pape François qui dit que la beauté, tout comme la vérité, suscite toujours l'admiration et lorsqu'elle est rapportée au mystère de Dieu, elle conduit à l'adoration. Voilà, je pense qu'on est tout à fait là-dedans avec cet esthétisme qui est au service de la prière, de la méditation et donc de l'adoration, qui est à mon sens à requalifier dans notre approche de la prière. Je le pense tout à fait sincèrement. Alors dans ce que vous avez entendu avec Tournemire là, vous avez quelque chose de totalement, une musique extrêmement horizontale, une plage sonore sans relief presque. Qui caractérise selon moi complètement cette idée d'abandon, un petit peu comme si vous étiez en montagne et que vous aviez ce lac parfaitement tranquille et lisse qui vous invite sans violence à vous dire viens te reposer auprès de moi et laisse ton esprit courir. Je trouve que c'est ça que nous invite parfois à faire la musique. On est loin des choses tonitruantes, extraordinairement, avec des discours musicaux très profus. Dont sont parfois capables les musiciens. Il est aussi tout à fait possible d'avoir un autre versant de la musique qui nous pousse à la méditation. Donc ça, c'était pour la partie d'orgue, bien entendu. Vous pouvez tout à fait écouter d'autres pièces d'orgue. Alors pour Tournemire, je vous ai déjà enjoint à découvrir ce compositeur extraordinaire qui a composé ses offices. Incroyables par leur densité, par les discours qui sont tout à fait différents. Vous avez par exemple des chorales incroyables, etc. Et qui se rapportent toujours. C'est là où j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure au grégorien, parce que il a composé toutes ses messes sur le grégorien. Donc quand je vous dis qu'il y a vraiment un lien entre le souffle, la pneuma, l'anima, et la musique, c'est ici parfaitement retranscrit par le compositeur, et on a cet aspect naturel de souffle, de détente qui apparaît. Maintenant, je vais vous proposer de passer à une partie purement vocale, donc en rejoignant tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc avec tout ce qui est autour du texte et autour de la musique. Alors le texte, ça va être très rapide, vous le connaissez déjà, il s'agit du Magnificat. Alors les Magnificat, vous l'avez entendu de diverses manières, là aussi les compositeurs s'en sont donnés à cœur joie, il y en a qui sont exubérants, qui sont carrément orchestrales, etc. Et là je vais vous proposer quelque chose d'extrêmement différent avec là aussi un compositeur, vous commencez à me connaître, que j'affectionne beaucoup et que j'utilise beaucoup, il s'agit de Arvo Pärt. Alors dans ce Magnificat qui date de 1989, il y a une approche diamétralement opposée. Donc le texte, comme je vous l'ai dit, là pour le coup, rien à dire, vous le connaissez. En revanche, tout va se jouer dans la musique. Donc il y a, c'est donc pour un chœur avec qui est réparti à peu près, qui se répartit en 8 voix. Vous avez un solo également à la voix de soprano. Et une espèce de calme qui se dégage de cette œuvre, qui est absolument fantastique. Vous allez prêter attention. Donc il est construit comme une sorte de grand soufflet, ce Magnificat. Il commence avec beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Au milieu de l'œuvre, vous avez un moment qui est beaucoup plus fort, vous verrez effectivement que c'est parfaitement là aussi en adéquation avec les paroles, et puis un retour au calme qui n'est pas inattendu du tout, hein, parce que la musique d'Arvo Pärt est quand même extrêmement méditative, mais à laquelle on ne s'attend pas. Effectivement, quand il y a ce Magnificat avec cette joie du texte, on se demande presque ce que vient faire là cette joie totalement intérieure. Parce que c'est une approche totalement différente que je vais vous proposer ici. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'écouter le Magnificat d'Arvo Pärt. Là aussi, il faut très certainement se mettre en condition. C'est ce dont je vais vous parler après l'avoir écouté. Et comme ça, peut-être que vous pourrez réécouter cette émission avec les conditions dont je voulais vous parler. En attendant, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce Magnificat d'Arvo Pärt. C'est vraiment de la musique extraordinaire qui, je le pense, fait véritablement son travail de méditation et de mise en condition pour la disponibilité à l'oreille musicale et, bien entendu, à l'intérêt supérieur, donc à l'adoration de Dieu. Juste un tout petit peu d'analyse musicale. Je vous avais dit que ça avait été construit en soufflé. Donc, je ne sais pas si vous avez noté le texte qui était mis en exergue par les voix qui s'éclataient au milieu de l'œuvre. C'est quand il est fait référence à l'amour de Dieu, et misericordia eius, a progenie in progenies, timentibus eum, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et donc il y a cet aspect d'infinité dans l'amour avec ce forte, les voix qui s'éclatent avec presque de la musique spectrale, c'est-à-dire que vous avez les harmonies qui s'éclatent et qui se répartissent dans l'édifice et qui retrouvent ici tout leur sens. Et on termine avec la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, comme si la prière était accomplie, elle était exaucée, et on retrouvait une forme de sérénité du cœur. Voilà donc ce que je peux dire brièvement. Bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse extraordinaire de ce Magnificat, mais je voulais vous parler de la condition. On a déjà dit qu'il fallait avoir le cœur disponible et l'esprit libre pour pouvoir écouter de la musique, pour pouvoir prier, pour pouvoir être en adoration de Dieu. Il y a quelque chose qui, je pense, va en adéquation avec cette musique. Il s'agit tout simplement, et nous avons la chance, d'être confrontés à différents types d'art quand nous allons à la messe. Si vous avez la chance d'être d'aller à la messe dans une église qui a un certain âge, vous avez parfois l'art gothique avec des vitraux extraordinaires, ces voûtes qui s'élancent vers le ciel infini, vous avez ces pierres romanes extraordinaires qui racontent mille histoires, vous avez des exercices néoclassiques qui ont été faits dans l'architecture, et aujourd'hui, dans l'architecture contemporaine, vous avez parfois des jeux avec les matériaux, des choses qui sont extraordinaires et qui permettent d'être en condition pour recevoir toutes ces choses-là. C'est-à-dire que les arts, l'architecture, la peinture, la sculpture, l'art du vitrail et la musique sont toutes au service de ce même objectif qui est l'adoration divine. Donc tout cela, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une sorte d'adéquation, il y a une sorte de cohérence dans le projet, dans la catéchèse, dans le véhicule que devient l'art pour pouvoir se mettre au service de la méditation, de la prière et de l'adoration. C'est cela que je trouve complètement incroyable avec les arts, c'est que ça ne dit pas son nom, ça se cache un petit peu derrière son génie. Mais finalement, c'est ce qui nous permet d'atteindre l'indicible. Alors bien entendu, on peut méditer seul chez soi, c'est une évidence. Mais quand on est en communion, en communauté, rendez-vous compte de cette espèce de rassemblement qui se fait parfois par les arts et qui, je pense, doit être sauvegardé, protégé. C'est pour cela que, semaine après semaine, je vous parle du grand répertoire. C'est absolument pas par snobisme ou pour pouvoir combattre quelque chose d'autre que je trouverais néfaste. Non, c'est pour protéger quelque chose qui, aujourd'hui, dans notre société, est, je le pense, en danger. Il faut aujourd'hui se mettre en capacité presque d'infériorité, exactement comme quand le Christ est venu laver les pieds des 12. Il y a tout à fait quelque chose de l'ordre du service dans la disponibilité, et aujourd'hui, dans les temps contemporains, quand on sollicite nos sens, en particulier la vue, et beaucoup l'ouïe également, il est de bon ton de pouvoir se mettre en disponibilité pour pouvoir prier. J'espère que les morceaux dont je vous ai parlé vous ont aidé. Bien entendu, j'aurais pu choisir mille et un autres exemples, mais aujourd'hui, voilà, j'avais à cœur de vous faire partager cette pensée et de l'accompagner en musique de sorte à ce que vous puissiez comprendre ce que je voulais vous dire. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très belle journée sur Radio Présence et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Point d'Orgue. À bientôt et au revoir.